Théo Feeling. Au micro, Joël Baumann. Bonjour. Eh bien, merci d'être fidèle à notre rencontre, ou peut-être venez-vous pour la première fois nous rejoindre. Eh bien, sachez que à Théo Feeling, en ce moment, nous explorons des expressions empruntées de la Bible que nous utilisons dans notre langage courant, dans nos conversations courantes, sans le savoir. En fait, nous sommes presque des théologiens sans le savoir, parce que beaucoup d'expressions, le chemin, avoir son chemin de Damas, être leader charismatique, rendre à César ce qui est à César, pleurer comme une madeleine, à chaque jour suffit sa peine, enfin il y en a énormément, et donc c'est ce que nous essayons de voir à chaque émission. Nous essayons de rentrer dans l'explication et rechercher le sens premier de ces expressions que nous utilisons aujourd'hui d'une manière un peu naturelle. C'est Thibaut de la Ruelle, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France, qui nous introduit chaque fois quelques expressions. Et il est en entretien avec notre ami Philly. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec la radio Arc-en-Ciel de La Réunion, parce que c'est avec l'Église protestante de La Réunion que nous explorons ensemble la Bible sur ces questions, sur ces expressions. Alors tout de suite, je laisse la parole à Thibaut de la Ruelle et à Philly.
Effectivement, néanmoins, il y a quand même un verset biblique sur lequel on peut se pencher, sur lequel nous nous penchons d'ailleurs. Bon, si tu veux bien, rendons à César ce qui est à César.
Oui.
Ça serait donc une parole de Jésus, mm-hmm. Mais elle est incomplète.
Oui, alors effectivement, on la trouve dans Marc, hein, Marc chapitre 12, versets 13 à 17. Il y a les parallèles, je peux regarder exactement, il y a sans doute les parallèles. Donc effectivement, la parole de Jésus, c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est un piège, puisque au fond, c'est les gens qui sont devant Jésus, c'est d'ailleurs des pharisiens et des hérodiens, je crois.
Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'un pharisien ?
Alors un pharisien,
qu'est-ce qui caractérise le pharisien ?
Voilà. Alors le pharisien, effectivement, c'est il y a plusieurs formes de judaïsme à l'époque. Il y a le judaïsme lié à la prêtrise, donc au temple spécifiquement, qui est les sadducéens. Donc les sadducéens sont les prêtres. Les pharisiens, c'est pour un autre type de judaïsme qui lui est fondé sur la Torah, c'est-à-dire la loi.
Hein,
donc et donc qui effectivement est un judaïsme beaucoup plus lié à l'écriture et non pas au sanctuaire du temple.
Un judaïsme pur et dur.
Il y a plusieurs courants, mais en tout cas, c'est un judaïsme. Et d'ailleurs, faut noter que c'est le seul judaïsme qui a survécu de nos jours, puisque avec la destruction du temple et le fait d'avoir été chassé de terre promise, donc à la fin du premier siècle de notre ère, le seul judaïsme qui a survécu, c'est le judaïsme pharisien, puisque comme il est basé sur la loi, au fond, il peut se passer de temple, il peut se passer de ville sainte, et il peut se passer de territoire, puisque au fond, l'observance se fait à partir de l'écriture, dans un endroit qu'on appelle la synagogue, et qui est plus un lieu d'étude finalement qu'un lieu. C'est un lieu de culte, mais disons, ça n'a pas le statut que le temple avait dans la religion sadducéenne. Et donc là, pour revenir à notre contexte, il y a les pharisiens qui, dans le piège qui tend à Jésus, ils estiment que si Jésus répond qu'il faut payer l'impôt, puisque la question c'est est-ce qu'on doit payer ou pas l'impôt. Si Jésus répond oui, il faut payer l'impôt, du point de vue des pharisiens, il sera considéré comme un collabo, quoi, comme quelqu'un qui rend impur, qui se rend impur, puisque quelque part il vend son âme à l'occupant romain, quoi. Bon. Et par contre, si Jésus rallie les pharisiens en disant il ne faut pas payer l'impôt, il se mettra à dos un autre parti qui n'est pas forcément un parti religieux, mais qui est un parti juif important de l'époque, qui est les Hérodiens. Les Hérodiens qui sont les partisans d'Hérode, l'empereur qui a été installé par les Romains. Donc en fait, une sorte de marionnette des Romains, et eux qui considèrent qu'il faut collaborer avec Rome, parce que évidemment, comme ils ont été installés par Rome, bah, ils sont fidèles à Rome. Et donc on voit bien que le piège, c'est que Jésus soit va passer dans un camp, soit dans l'autre. Dans tous les cas, il sera...
Il en porte à faux, là. Voilà. Parce que soit il suit la règle de l'État, soit il suit la règle de l'Église.
Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que, effectivement, ce que Jésus va mettre en question, alors, par sa réponse, c'est l'espèce de mélange entre, au fond, ce qui est du politique et ce qui est du religieux. Alors, il ne s'agit pas de dire que Jésus est une réponse laïque. On n'est pas à 2000 ans d'aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte où ça a du sens. Mais en tout cas, ce qui montre bien, Jésus, en disant il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il distingue les deux sphères du politique et du religieux. Et donc ça, c'est la réponse un petit peu révolutionnaire, puisque quelque part, payer l'impôt à César, c'était aussi lui rendre un culte, hein, puisqu'à l'époque, les Romains obligeaient au culte impérial, donc il fallait rendre un culte à César comme à un dieu. Surtout dans un contexte païen, César se donnait à être adoré comme un dieu. Et donc du coup, Jésus sépare les deux sphères, ce qui remet les choses à une autre place que ce qu'elles étaient, quoi.
Alors, où est la solution ? Est-ce qu'on est citoyen ou est-ce qu'on est chrétien ?
Ah, mais justement, là, on peut être les deux, mais à condition que de ne pas mélanger. C'est-à-dire qu'on est citoyen dès lors que la citoyenneté ne nous oblige pas à nous mettre à renier ou à nous mettre dans des situations qui sont contre la conscience. Et ça, dans l'histoire, ça n'arrête pas, hein, je veux dire, en même temps. Je veux dire, il y a quantité de pouvoirs politiques qui, quelque part, veulent exercer sur les consciences, que ce soit de manière dictatoriale, tyrannique, comme ça a pu être le cas de nombreuses fois dans l'histoire, mais comme ça peut être de manière un peu plus subtile, comme aujourd'hui, où parfois, les gouvernements cherchent à rentrer dans les consciences. Bon. Et là, quelque part, Jésus, avec cette phrase, dit que, voilà, on peut être citoyen et chrétien, mais voilà, il faut pas que que effectivement notre vie citoyenne vienne mettre notre conscience à mal, quoi.
Est-ce que c'est un prélude à la loi d'aujourd'hui, comme quoi il y a une séparation de l'Église et de l'État?
Ah bah, encore une fois, 2000 ans avant, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moins le principe de non-distinction des deux, quelque part, est posé. Donc, on peut se demander si effectivement on aurait pu arriver à poser une séparation s'il n'y avait pas ce principe posé. Dans le christianisme, en tout cas, c'est clair qu'il est posé avec cette phrase-là, quoi.
Alors aujourd'hui, à un certain moment, par exemple, il y avait ce qu'on appelait les objecteurs de conscience. Est-ce que ça rejoint un peu également ce thème, disant non, on ne veut pas payer, par exemple, de ce temps-là, c'était le service militaire, mais non, on ne veut pas payer l'impôt, donc qui est une loi de l'État, tout en gardant sa foi.
Ah ben là du coup, Jésus dit, enfin, là, il pose pas une objection de conscience, puisque quelque part. Rendez à César ce qui est à César, ça veut dire qu'il faut se conformer, au fond, à un certain fonctionnement politique citoyen, quoi, quelque part, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, il n'y a pas de mélange. L'objection de conscience, après, c'est quand on estime que ce que, justement, demande le pouvoir politique commence à empiéter sur les consciences. Bon. Après, ça, c'est un débat. Je veux dire, c'est dans le christianisme, on a des gens qui pensaient que porter les armes était déjà incompatible avec l'état de citoyen, et puis d'autres chrétiens, d'autres penseurs du christianisme qui ont estimé que c'était pas incompatible. Donc là, après, je veux dire, il y a toujours une, Jésus ne pose pas, justement, il ne pose pas une nouvelle règle. Il dit que il faut séparer les deux registres.
Bon. Et quelle était la réponse des pharisiens à ce moment-là?
Ah, par rapport à quoi ?
par rapport à leur question, faut-il payer l'impôt ? Et par rapport à la réponse de Jésus, après, qu'est-ce qu'ils ont...
Ah bah là, du coup, ils se sont fait clouer le bec, puisqu'ils s'attendaient pas à ça. Puis eux-mêmes se font prendre en défaut, parce que, pour la petite histoire, ils posent cette question-là à Jésus dans le temple, en sortant une monnaie de l'empereur. Donc eux, ils sont en pleine confusion. C'est-à-dire que eux, tout en essayant de piéger Jésus, il s'avère qu'ils sont en pleine confusion, puisque l'effigie de César, qui encore une fois est une effigie qui n'est pas simplement celle d'un empereur, mais celle d'un empereur qui demandait à être adoré comme un dieu dans le temple où, par définition, il est interdit d'adorer d'autres dieux. Je dirais déjà la réponse de Jésus en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », quelque part les met en porte-à-faux. Deuxièmement, le judaïsme de l'époque... et peut-être encore aujourd'hui beaucoup, confond quand même assez notoirement le registre politique et religieux. Je veux dire, ça c'est clair. Il y a une quasi-incapacité à penser le religieux en dehors de toute dimension politique, quoi. Et donc cette réponse de Jésus leur cloue le bec et les met probablement dans un...
Parce qu'ils avaient des pièces dans leur poche à l'effigie de César, ce qui voulait dire que, bon, ils reconnaissent aussi bien César que Dieu.
De toute façon, ils n'avaient sans doute pas trop le choix, puis sans doute que pour le coup, ils faisaient avec. Quoi. En cela, Jésus les traite d'hypocrites, il n'a pas tort. Bon, ils s'arrangeaient du système quand bon leur semblait, et puis quand il s'agissait de piéger Jésus, ils sortaient un argument plus sévère. Ça, c'est toujours comme ça, de toute façon.
C'était un test pour savoir s'il avait la foi.
Voilà, non mais complètement, c'est un piège.
C'est un piège. Il s'en est bien sorti. D'accord. Un petit intermède musical avant d'aborder le deuxième thème qui est donc Récomi Madeleine.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, l'émission Théo Feeling, et nous retrouvons le pasteur Thibaut de la Ruelle et son complice Philly pour des expressions bibliques que l'on retrouve dans le langage courant.
Abordons donc le deuxième thème, pleurer comme une Madeleine, qui n'est pas une citation biblique a priori.
Non.
Ça fait référence à une situation vécue par... est décrite dans la Bible ?
Alors, l'expression « pleurer comme une madeleine », effectivement, est plus de la tradition. C'est-à-dire que, quelque part, dans le christianisme, il y a un certain nombre d'interprétations plus ou moins, plus ou moins officielles. Parce qu'évidemment, les interprétations, il y a les interprétations qui appartiennent à l'Église, aux Églises, dans leur constitution théologique. Puis après, ça appartient aussi à la culture populaire qui s'empare aussi des choses et puis qui en fait son miel, quand même. Bon, je suis pas expert dans ces expressions-là, mais pleurer comme une Madeleine, effectivement, fait référence à un personnage du Nouveau Testament qui est Marie-Madeleine. C'est-à-dire, en fait, chez Marc et chez Matthieu, c'est juste avant la Passion. C'est une femme qui rentre alors que Jésus mange chez un notable et puis qui casse un vase de parfum. Elle répand sur ses pieds en les suivant avec ses cheveux. Donc, c'est un geste très érotique. Ceci dit, chez Matthieu...
Ah, j'ai pas lu ça, moi. Pardon ? Je croyais qu'elle pleurait, justement, avant de verser le parfum. Elle pleurait pour laver les pieds de Jésus, essuyer avec ses cheveux, et ensuite le parfumer.
Voilà. Alors, parce que effectivement, il y a plusieurs versions. On trouve dans Matthieu, Marc et Luc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne me rappelle plus très bien la chronologie, mais il y a des pleurs, il y a du parfum, il y a essuyé avec les cheveux. Bon, sans doute que la version n'est pas la même entre Matthieu, Marc et Luc. Mais la différence, c'est surtout entre Marc et Matthieu d'un côté et Luc de l'autre, parce que Marc et Matthieu parlent d'une femme, simplement. Et finalement, il n'y a pas de commentaire des convives. Alors que chez Luc... On dit tout de suite que c'est une femme pécheresse. sous-entendu vraisemblablement prostituée, et que du coup la polémique, c'est que les gens chez qui Jésus était disent, bah si c'est un prophète, il devrait pas se laisser faire comme ça, et il devrait remarquer que c'est une femme pécheresse. Mais on voit bien déjà qu'il y a une différence d'interprétation entre d'un côté Matthieu et Marc et de l'autre Luc, puisque Matthieu et Marc disent pas que c'est une pécheresse, même si le geste est érotique, hein, ça y a pas de confusion possible là-dessus. Une femme qui dénoue ses cheveux dans cette culture-là, d'emblée, commence à avoir un comportement érotique. Bon, c'est, chaque société a ses codes. À l'époque, ça fait aucun doute. Mais entre, effectivement, une femme qui a un comportement érotique et puis une autre dont on dit qu'elle est prostituée, ou en tout cas femme pécheresse, bon, en même temps, on peut supposer que c'est prostituée, c'est pas exactement la même chose. Et alors, donc, pour revenir à notre formule, comme tu disais, effectivement, on a associé cette femme avec Marie-Madeleine, et donc elle pleure à ce moment-là en lui lavant les pieds, puis elle pleure évidemment à la résurrection, à la croix, parce que là, par contre, Marie-Madeleine, on la retrouve au pied de la croix, et puis au matin de Pâques, donc... Voilà, donc sans doute que on a gardé d'elle une pleureuse et que l'expression pleurer comme une madeleine fait allusion à ça. Mais encore une fois, il faut bien voir que la femme qui répand sur les pieds de Jésus parfum et larmes, a priori, n'est pas Marie-Madeleine. En tout cas, la Bible ne le désigne pas comme tel, c'est la tradition. Alors, on a raison, mais enfin, on n'a pas le texte.
Mais pourquoi
biblique.
Le mot pleure ? Alors, pourquoi pleure-t-elle ? Et que signifient ces pleurs ? Est-ce que c'est une sorte de une manifestation du repentir ? Si elle est pécheresse ?
Déjà, on voit bien qu'entre Luc et d'un côté et Matthieu et Marc de l'autre, on ne fera pas forcément la même interprétation. Chez Luc, dès lors qu'elle est désignée comme pécheresse, on peut estimer effectivement que son pleur peut s'apparenter à un pleur de repentir. Bon, ça serait assez logique. Chez Matthieu et Marc, on peut tout à fait faire une logique très différente. C'est-à-dire qu'on peut supposer, moi je l'ai déjà d'ailleurs dans une émission, il me semble, développée, c'est-à-dire dire qu'en fait, elle est simplement en pleine passion forte, amoureuse, et que du coup, c'est un pleur de passion amoureuse. Bon, et que Jésus ne rabroue pas, mais qui déplace. Donc, ça serait du coup une parabole sur une certaine utilisation du désir humain, mais ouvert sur autre chose. C'est-à-dire que finalement, la femme vient, elle est amoureuse de Jésus, et au fond, Jésus lui montre une autre voie d'amour que celle érotique qu'elle avait au départ. Quoi. Voilà. Mais alors, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune raison de dire que ce serait des plans de repentance. Pas de raison. A priori, elle est simplement dans une passion humaine et amoureuse. Quoi. Bon. Voilà. Donc, tu vois, selon comment, selon quelle version on va prendre, quelle version biblique, on aura certainement une interprétation un peu différente, quoi, parce que les textes bibliques ne répètent pas les uns les autres, ils mettent en scène des situations différentes. D'ailleurs, il faut rappeler aussi que la différence entre Matthieu, Marc et Luc, c'est que Luc, lui, met cet épisode tout au début du ministère de Jésus. Alors que chez Matthieu et Marc, ils mettent ça non seulement à la fin, quand Jésus est déjà à Jérusalem, mais en plus, c'est à ce moment-là que Judas va décider de trahir. Chez Marc et Matthieu, et d'ailleurs ça porte sur l'argent, Marc et Matthieu disent « Oh, le parfum, on aurait pu le vendre à un grand prix », alors qu'encore une fois, chez Luc, ça porte pas sur l'argent, ça porte sur le « scandale » entre guillemets de la situation. Et dans Marc et Matthieu, c'est sur l'argent, et c'est à ce moment-là qu'en fait, Judas décide de trahir Jésus, donc passe à l'acte, quoi, quelque part. Donc on voit bien que c'est pas du tout le même usage de la parabole qui est fait dans ces trois évangiles.
Bien. As-tu quelque chose à ajouter à ce niveau-là?
Non. Encore une fois, on peut te préciser que bon, encore une fois, c'est une expression qui est fondée sur des épisodes bibliques, mais qui, comme une fois, il faut se méfier, parce que je vais prendre un autre exemple. On parle souvent de la pomme d'Adam. parce que la tradition a fait du fruit de la Genèse que le serpent a fait manger à Ève et du coup à Adam comme étant une pomme. Or, c'est pas du tout, quand on lit le texte biblique, c'est pas du tout une pomme. Donc, de temps en temps, c'est quand même bon de pas lire la Bible à travers le prisme de la tradition et de ce qu'on en a fait. La lecture de la tradition, elle peut avoir un intérêt, mais elle n'est pas, je veux dire, après, il faut revenir au texte biblique absolument parce que, il faut le libérer, quoi.
C'est parler d'un fruit défendu, on l'a donné.
C'est une erreur de traduction de latin, apparemment. C'est ce qui a conduit à mettre une pomme. Donc, c'est même un épisode assez pittoresque, puisque c'est plus une mauvaise traduction, donc une ânerie de cancre qui a produit cet effet-là que véritablement une intention particulière.
Parole d'évangile. Parole d'évangile, bon, souvent on s'est dit, bon, faut pas, ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Mm-hmm. Ça veut dire que donc, ce n'est pas une vérité absolue, c'est pas. Une parole d'évangile est une vérité incontestable, mm-hmm. une vérité absolue. Doit-on le prendre comme ça?
Alors c'est vrai que comme tu dis, hein, le quand en général on utilise cette expression une parole d'évangile pour dire que c'est pas une parole d'évangile, c'est pour dire qu'effectivement c'est pas à prendre comme une vérité. Bon, bien sûr, on comprend que dans la tradition chrétienne, dans la culture chrétienne au fond qui est la nôtre, l'évangile c'est la vérité, c'est la vérité religieuse majeure, c'est la révélation aussi, puisque bon, l'évangile n'est pas une vérité philosophique, c'est une vérité révélée. Et donc, du coup, cette expression, au fond, est équivalente à dire, effectivement, ce n'est pas à prendre comme une vérité. Bon. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est assez curieux, finalement, parce que est-ce que l'évangile est une vérité qui est dans une formule? Bon, ça peut se discuter, quoi. Je veux dire, il y a peut-être un détournement assez symptomatique de penser que tout d'un coup, l'évangile, c'est une parole, une formule, un propos. Alors que, bon, je dirais, au fond, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que l'évangile, c'est plus un événement, quoi, finalement. Je veux dire, l'évangile, bon, n'a pas besoin d'être un très grand lecteur du Nouveau Testament pour s'apercevoir que ça a trait à cet événement de la résurrection. Donc, pas vraiment une parole.
Non, n'empêche que donc, tu parles du Nouveau Testament, l'Évangile, il y en a quatre, mm-hmm. même plus, je ne sais pas, enfin, vous connaissez Saint-Luc, Saint-Matthieu, selon Saint-Jean, mm-hmm. Saint-Paul. Donc, ces quatre livres seraient donc la base et la vérité absolue de...
C'est ça qui est d'ailleurs assez intéressant, finalement, parce que j'ai constaté plusieurs fois que il y a parfois dans certaines traditions chrétiennes, et peut-être d'ailleurs plus souvent chez les catholiques, ça se trouve, l'idée que l'évangile se trouve dans les évangiles. C'est-à-dire que, par exemple, à la messe, quand j'ai fait des célébrations œcuméniques, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand il y a lecture d'un évangile, les gens se lèvent. C'est assez étonnant finalement, parce que je dirais les évangiles sont pas plus évangéliques que les autres textes du Nouveau Testament, et peut-être pas d'ailleurs que les textes de l'Ancien Testament. Alors bien sûr,
est-ce que c'est un poids particulier, c'est censé donc refléter la vérité, donc
parce que je crois que tout
c'est
simplement
un signe de respect, c'est un signe
non
de...
mais je crois parce que tout simplement comme les évangélistes donnent l'impression de rapporter les paroles de Jésus précisément. Du point de vue d'un auditoire, alors encore une fois, là, j'ai parlé du catholicisme, mais on trouverait ça dans d'autres traditions. C'est l'idée, par exemple, un truc tout bête, mais je me rappelle en études bibliques, j'avais un paroissien qui avait, dès que Jésus parlait, c'est écrit en rouge. C'était imprimé en rouge au lieu d'être imprimé en noir, comme si tout d'un coup, le texte prenait une autre. Mais je dirais, c'est finalement assez absurde, parce que les évangiles sont une interprétation, de toute façon. Je veux dire, ils ne sont pas plus évangéliques, encore une fois, qu'une épître de Paul, qu'un texte de l'Apocalypse, aussi obscur que puissent paraître les textes de l'Apocalypse, ou tel passage des Actes des Apôtres. Mais c'est vrai, comme on se dit, ça sort de la bouche de Jésus, c'est vrai. bon, c'est peut-être pas aussi simple, quoi, parce que je veux dire, ça sort de la bouche de Jésus, en partie probablement, mais bon, c'est très bien aujourd'hui par l'exégèse que finalement, d'une part, on peut pas être sûr à 100% que les paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus dans les évangiles sont bel et bien de lui. Il y a des constructions narratives, il y a des prédications, hein, donc du coup on peut pas être, je veux dire, c'est pas certain. Et ensuite, une parole, même quand on rapporte la parole de quelqu'un, dès lors qu'on la met en scène dans une narration, ce que font les quatre évangiles, automatiquement on l'interprète. Donc, je veux dire, on peut pas dire que voilà, c'est quelque chose qui a une plus grande valeur qu'autre chose. C'est pour ça qu'à mon sens, l'évangile, c'est beaucoup plus justement l'événement de la résurrection qui du coup donne sens au témoignage chrétien, alors rapporté par les évangélistes, mais aussi rapporté en Actes des Apôtres, rapporté dans les Épîtres, enfin porté dans les Épîtres, parce que finalement là il ne s'agit pas de rapporter des paroles de Jésus, mais beaucoup plus de porter la vérité évangélique au sein des communautés, de leurs problèmes, de leurs questionnements. Quoi.
Alors dans la vue courante, quand on te dit bon, ce que dit cette personne n'est pas parole d'évangile, à quoi maintenant peut-on se fier et sur quoi peut-on se baser pour croire une personne dans la mesure où on peut se permettre de douter de tout, de cette parole ?
Non, ça ne veut pas dire qu'il faille douter de tout, mais ça veut dire que, du coup, les choses, elles se comprennent de manière plus largement, quoi. Donc, quelque part, elles se comprennent à la lumière, encore une fois, de d'autres paroles, de d'autres témoignages, de choses comme ça. Donc, c'est juste qu'en fait, voilà, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas être dans une espèce de littéralisme qui dit que tout d'un coup, voilà, il y a l'évangile tient dans une phrase. Bon. Par contre, il peut tenir dans une parole, pour le coup. Si c'est une parole, par exemple, de délivrance, une parole qui tout d'un coup fait sens pour quelqu'un et lui fait vivre l'événement, je dirais, de la résurrection, l'événement qu'il relève, là oui. Donc parole d'évangile, pour le coup, voilà, si je devais dire, moi, qu'est-ce que j'entends, comment je peux donner du sens à cette formule parole d'évangile, je dirais qu'une parole d'évangile, c'est une parole qui a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Mais en général, on n'en est pas maître, évidemment, et des fois, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent nous dire par la suite, moi, comme pasteur, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce que vous avez dit ce jour-là, ça m'a beaucoup marqué, machin et tout, alors que nous, on avait dit ça un peu rapidement. Enfin, voilà, on ne savait pas que ça allait être une parole d'évangile pour quelqu'un.
Est-ce que cette parole d'évangile ne peut être tenue que par un religieux ?
Ah non, pas du tout, non. Non, la parole d'évangile, j'irais, elle est tenue par quiconque, à un moment donné, en est le dépositaire par le miracle de l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit souffle où il veut, et quelqu'un est porteur de parole d'évangile pour quelqu'un d'autre, qu'il soit religieux ou pas, qu'il soit même croyant ou pas, après tout, rien n'empêche de penser que quelqu'un peut avoir une parole d'évangile pour quelqu'un d'autre tout en n'étant pas croyant. Il n'y a pas de... Je veux dire, voilà, elle peut lui dire quelque chose de fondamental et puis ça se révèle être littéralement une parole d'évangile.
Bien, merci Thibaut de la Ruelle, merci Philly, et nous donnons rendez-vous pour vous retrouver et vous retrouver vous aussi, chers auditeurs, dans une nouvelle émission avec de nouvelles expressions. Nous découvrons ainsi certaines expressions bibliques que nous avons passées dans le langage courant. À bientôt.